spectaculaire commence aujourd'hui, émission numéro 166, je crois. Mercredi 30 mai 2018, Christophe Rollin au micro, Gérald est là aujourd'hui, ouais c'est super. Et Thierry Collet est également présent, Thierry Collet, un magicien pour le spectacle qu'il donne depuis hier. C'était le mardi 29 jusqu'à ce samedi. Jusqu'au samedi, est-ce que j'ai les dates sous les yeux? Oui, jusqu'au samedi 2 juin, c'était au Théâtre de la Croix-Rousse et ce spectacle s'appelle forcément... Dans la peau d'un magicien, mise en scène par Éric Didry. Donc Thierry Collet, notre invité, va nous parler jusqu'à 15h de ce qu'est être un magicien et de ce qu'est également ce spectacle Dans la peau d'un magicien au Théâtre de la Croix-Rousse. Commençons avec de la musique, c'est Gérald qui a programmé ça. Martin et ses antécédents, rappelez-vous, on a reçu Martin plusieurs fois déjà par le passé. Écoutons le premier titre de son album Le Couple Infernal, et d'ailleurs le titre s'appelle de cette même manière Le Couple Infernal. Peut-être n'est-il pas question tout à fait de magie, mais bon, c'est un univers, une ambiance. Nous verrons, et cela fera certainement la matière à une première question, peut-être plus à Gérald qu'à Thierry. Voilà, nous commençons à 14h04, un peu de retard pour aujourd'hui, mais jusqu'à 15h, cela se passera très bien. Vous nous écoutez sur le radiocanu.org, si vous le faites sur Internet, ou bien à Lyon, 102.2 de la bande FM.
Histoire pas banale d'un couple et son cirque infernal revenant d'une tournée en enfer. Le Tibet est un gros balèze surgissant d'une piste de braise pour se lancer des crotales. Puis les manger par dizaines en lançant des râles de haine, en tordant des barres de métal arrachées à une cage en flammes. On pouvait voir sur son biceps des tatouages de cœur sanglant qui le montraient en pleurant aux femmes prêtes à lui donner leur âme.
La fille était du genre superbe, surgissant là sur son trapèze au milieu des gerbes d'étoiles. Le corps moulé par des paillettes, elle se lançait dans des abîmes au milieu des tirs de mitraille. Par des ailes immenses, elle volait dans une danse, dans des arabesques, des transes qui vous auraient fait croire au ciel. C'était un couple extraordinaire, revenant du tournée aux enfers, pour faire trembler petits et grands, pour terroriser les enfants. Eux, ils mangeaient vraiment des clowns, leurs sourcils appelaient patrons.
Faut pas déconner, madame.
Quand elle avançait toute gracile, en suspension sur son fil, en tenant deux énormes lames, tout en tirant bien fort la langue, les hommes serraient bien fort les jambes, de peur de faire couper le sésame.
L'homme la regardait immobile, croisant les bras d'un air viril, le pied posé sur un lion, puis il avança d'un pas lourd. Tandis que tapaient les tambours, il se glissa dans un canon qu'il envoya dans une flamme, la rejoindre là-haut sur le fil. Et pour leur numéro final, qui bien sûr leur sera fatal, ils s'enlacèrent tout tendrement et se jetèrent du chapiteau au milieu des cris des bravos pour s'éventrer sur des couteaux. Et dans un grand rire sardonique, la terre s'ouvrit, quelle fin lyrique, car ce grand couple extraordinaire repartit tourner en enfer. On est mieux payé en enfer. En enfer. En enfer.
Ah.
Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2. Nous avons encore quelques minutes de retard. C'était pour accueillir notre invité d'aujourd'hui, du jour, un invité exceptionnel, Thierry Collet, qui va bientôt se présenter, qui donne en ce moment un spectacle jusqu'à samedi à 19h30, mais c'est à 20h ce soir, ou encore il y aura un bord de scène, donc une rencontre avec lui, ou peut-être nous expliquera-t-il tous ses tours, ses fameux tours, puisqu'il est magicien, mais c'est un magicien assez exceptionnel. On va voir pourquoi. On était hier, on a eu la chance d'assister au spectacle merveilleux hier avec Christophe. Je laisse la parole. On vient d'écouter Le Couple Infernal, pour quand même, c'était un peu proche, l'univers d'un féerique du cirque. C'est dur de trouver des chansons sur la magie, mais on va peut-être en diffuser quelques-unes. Martin et ses cédants, Clara Bauer, Martin, Rod, au chant et à la composition. Monsieur Thierry Collet, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, la première question que nous posons généralement, mais est-ce qu'elle va fonctionner aujourd'hui, c'est qui êtes-vous, Thierry Collet? Et là, en fait, non, vous posez cette question, je vous laisse tout à fait y répondre si vous le souhaitez, mais ne serait-ce pas déflorer le spectacle, puisque c'est un spectacle très, très narratif, autobiographique. Alors, je vous en prie, en fait, comment pourriez-vous comme ça vous présenter un peu, sans peut-être trop parler de...
Il faut quand même que j'y réponde. Pendant longtemps, je raconte aussi un peu dans le spectacle, j'ai pas très bien su qui j'étais, entre être comédien, être magicien, être metteur en scène, tout ça. Je trouvais pas tellement de cohérence entre tout ça. Et je m'aperçois, depuis pas très longtemps, ça doit être il y a quelques années, pendant longtemps, quand les gens me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je disais que j'étais acteur. Et depuis peut-être un an ou deux maintenant, je dis que je suis magicien.
Vous y arrivez?
Ouais, j'y arrive.
C'était impossible à une période.
J'étais au magicien anonyme, je me suis libéré de je ne sais quoi. Mais je pense que j'assume le fait de dire que je suis magicien. Après, c'est vachement compliqué de dire qu'on est magicien, parce que ça recouvre tellement de réalité pour les gens. Alors, prestidigitateur, c'est très compliqué, les gens savent pas le dire. Illusionniste, aussi, c'est super compliqué.
Battleur est un peu péjoratif, hein, je crois. Vous en parlez dans le spectacle,
ouais.
En retraçant une petite histoire très très légère avec le tarot de Marseille. C'était un petit lien avec Martin, justement, qui tire les cartes.
C'est un peu moyenâgeux, le battleur, hein, on dit... Non, magicien, c'est assez générique, c'est assez pratique. Mais du coup, il y a plein de gens qui disent, en sorcellerie ou en vraie magie, avec plein de guillemets, hein, les gens se disent magicien. Les mages, des sorcières, des astrologues, des machins.
J'ai un terme en tête, enchanteur.
Enchanteur.
Ah, ça peut être bien, ça peut être Thierry l'enchanteur.
Ouais, alors c'était le titre de mon tout premier spectacle, l'enchanteur.
On était enchantés, nous, hein, hier, Gérald. On était vraiment.
Mais c'est un peu vintage, quoi. Ouais, l'enchanteur, ouais. Ça fait Merlin, des trucs brosséliants.
Nous avons reçu Jacques Chambon ici. C'était en octobre dernier, je crois, hein, Gérald. Ah, tu avais manqué, oui, c'était une des émissions fin de matinée ou déplacé un jeudi. Jacques Chambon qui incarne, vous connaissez Jacques Chambon qui joue Merlin dans cette grande série Kaamelott. J'en envoyais des épisodes lundi soir, c'est. Il est pathétique. Thierry Collet, et vous, alors vous, peut-être un début, mais vous le dites également dans le spectacle, puis même dans la petite note d'intention, vous commencez à 7 ans, avant 7 ans, non, il n'y a pas de...
En fait, pour faire de la magie, je dirais pour être sensible à la magie, faut quand même avoir une espèce de notion de ce qu'est la réalité. C'est-à-dire que des enfants très petits... vous leur montrez un objet, vous avez dans la main, vous fermez la main, on voit plus l'objet. Bah pour les enfants petits, alors je sais plus jusqu'à quel âge, hein, moi j'ai plus mon Piaget en tête. En fait, ils cessent de voir l'objet, donc ils cessent d'exister. Il faut avoir ce qu'on appelle la notion de la permanence de l'objet, pour savoir qu'un objet, c'est pas possible qu'il disparaisse, c'est magique. La question du reflet, donc il faut avoir la question de la temporalité, une chose est détruite, elle ne peut pas se reconstituer toute seule. Enfin, donc il faut avoir, je dirais, intégré toutes ces notions qui sont cognitives pour pouvoir se mettre à jouer avec ces notions et avec la question de l'impossible qui est la fonction de la magie, l'utopie, l'impossible, s'affranchir des règles du réel, de l'existence, du raisonnable, de tout ça. Voilà. Donc moi je dirais que c'est à 7 ans, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue. Ce que je dis dans le spectacle, hein, c'est l'âge de raison. Et puis, dans le stade de développement de l'enfant, il y a quelque chose qui se joue autour du mensonge, autour de la question de la vérité, du mensonge. J'ai l'impression que c'est à peu près à cet âge-là aussi que les enfants commencent à mentir pour obtenir quelque chose. Il y a quelque chose autour du sens moral. Voilà. Donc, c'est normal. C'est assez logique que la magie qui cristallise un peu ça, la question du vrai, du faux. Je mens pour amuser les gens, mais en même temps pour les tromper. Je développe une relation de pouvoir. Hein. Le savoir, ça donne du pouvoir. Donc,
voilà. Manipulation mentale.
Complètement, manipulation des autres, agir sur les adultes.
Tu as prononcé ce terme-là, Gérald, quand vous cherchiez votre liste tout à l'heure, et le mot mentaliste aussi, ça peut appartenir. Si vous l'avez donné dans cette, vous cherchez différents mots, magicien, mage, enchanteur, sorcier peut-être.
Ça aussi, c'est un mot qui est très vague hein, maintenant, très vaste aussi, notamment avec la série télé, parce que les gens ils pensent que c'est vrai, d'abord le mentalisme, que comme dans la série télé, on peut vous regarder dans les yeux et savoir parce que vous regardez un peu de tel côté, vous avez dissimulé, je sais pas quoi. Telle preuve ou telle. En fait, le mentalisme, c'est une des branches de la prestidigitation, donc de la magie truquée. Et c'est des techniques. Voilà.
Moi, donc, je me demandais le sens même du mot prestidigitateur. J'ai voulu rechercher ça un peu pour l'émission et je n'ai pas tout à fait trouvé. Alors, bien entendu.
Preste, rapidité.
Ça vient
prest.
Du latin, c'est ça.
Digiti les doigts.
Voilà. D'accord, mais alors,
agilité des doigts, preste.
Donc c'est
pour dissimuler, je pense.
Voilà, c'est un terme purement technique qui indique que c'est l'art de d'être agile de ses doigts et de pouvoir en faire différentes choses, hein, faire disparaître des cartes.
Oui, et qu'on pourrait dire que ça concerne un certain type de magie qui est centré sur la manipulation, vraiment sur la dextérité. Parce qu'il y a plein de sortes hein, de magie, moi j'en convoque d'ailleurs plusieurs sortes dans le spectacle. Une expérience comme le barman du diable, par exemple.
Ça c'est un tour. Transsubstantiation.
L'expérience de la caisse avec les épées, c'est pas une expérience de prestidigitation, c'est une expérience qui ne fait pas intervenir l'habileté manuelle. Par contre, les cartes de la fin, là je fais apparaître des cartes, là c'est vraiment de la prestidigitation, c'est les doigts qui bossent. Quoi.
C'est vraiment le clou du spectacle, le bouquet
et final. Et le corps, pas que les doigts.
Les doigts et le
c'est
corps.
Stupéfiant. Ouais.
C'est corporel et gestuel.
Et je me rends compte, Gérald Mince, j'ai trop parlé, je vous ai tout à fait coupé, vous étiez 7 ans, vous découvrez que... Enfin, je sais même plus si vous êtes arrivé...
Un déclic, vous avez vu un magicien.
Je découvre le pouvoir, la jouissance du pouvoir.
Oui,
en fait.
C'est ça, le savoir, c'est le pouvoir,
savoir,
vous disiez.
C'est du pouvoir.
La manipulation mentale, vous disiez.
Ben oui, l'ignorance, voilà... Les ignorants perdent face aux gens qui savent. C'est terrible, mais voilà.
Et vous avez vu, lors d'un spectacle, un magicien, ça a été un déclic ou...
En fait, je me souviens même pas du déclic, parce que j'ai pas de grand-oncle ou de grand-père qui faisait des tours de magie quand j'étais enfant. Donc je pense... Mes parents n'avaient pas la télé à ce moment-là, donc j'en ai pas... Peut-être j'en ai vu dans un spectacle, parce que ma mère m'emmenait au spectacle. Donc peut-être j'en ai vu un. En tout cas, c'est totalement passionnel et je tombe là-dedans à 7 ans et je sais que ma vie entière va tourner autour de ça.
Vous avez échappé à Gérard Majax et à Garcimore, en fait.
Non, je les regardais et ça m'a constitué aussi. Hein. Moi, j'ai trouvé ça quand même vachement bien. Gérard Majax, il a tenu des années en ce qu'on appelle l'access prime time, hein, qui est la tranche horaire 19h45-20h avant le JT. Il avait son émission, c'était passe-passe, puis il y a un truc... Et quand même, il a tenu vachement longtemps et il a popularisé beaucoup la magie. Garcimore aussi, c'était une vraie figure populaire, en même temps magique. Il y avait Dominique Webb aussi à l'époque, qui avait ses gros yeux là, qui hypnotisait les gens.
Je continue à être assez admiratif. Vous avez une connaissance, me semble-t-il, vous le montrez dans le spectacle, assez encyclopédique de
sa discipline.
Des noms voilà, de votre discipline. Vous évoquez alors,
pas mal de noms d'ailleurs.
Son prénom, le Robert Houdin. Robert Houdin, j'ai découvert, c'est en fait un nom de famille. Robert-Houdin.
Ouais.
Son prénom, Eugène.
Jean-Eugène.
Jean-Eugène.
Jean-Eugène Robert Houdin.
Vous évoquez aussi différents magiciens. Un britannique, vous dites l'un des David, je crois qu'il y a toute une série de David.
Devant.
C'est votre favori.
Donc, Copperfield.
C'est assez. Donc vous avez une vraie connaissance. Majax, Garcimore. Vous évoquez ce Dominique Webb. Moi, ça
Dominique
me dit absolument. Rien,
Jacques Delors aussi qui faisait des émissions pour les enfants le samedi après-midi sur FR3, donc ça s'appelle France 3.
Dans l'article du Monde, vous parliez de l'émission de Patrick Sébastien qui a beaucoup fait, dites-vous aussi. Mais il y a une vraie connaissance actuelle et puis par le passé aussi. C'est quoi des lectures ou des. Enfin, vous êtes. Voilà, votre discipline vous passionnant, vous êtes entré dedans et pas seulement en promeneur, mais en vrai, vous êtes emparé du chemin de vos devanciers et vous connaissez tout, vous savez tout.
Ben, c'est très obsessionnel. Puis après, vu mon âge, j'ai aussi vu pas mal de choses.
Vous le dites dans le spectacle, auditeur. Si vous souhaitez le savoir, allez voir le spectacle pour savoir
non,
quel
mais
âge.
Il y a un âge. Où, puis si on a un peu. Je trouve c'est chouette quand même de se tenir au courant.
Attention, je suis entièrement d'accord, mais est-ce le cas de tout le monde? Est-ce que vous avez le sentiment que vos confrères maîtrisent aussi toute cette matière?
L'histoire de la magie, les gens qui ont fait bouger cet art-là. Ah là là, je pense que c'est comme partout. Il y a des gens oui, des gens non. Mais quand même, je trouve qu'il y a un intérêt. En fait, après, c'est peut-être un petit peu centré sur les trucs. Les magiciens sont des dévoreurs de trucs, puisque c'est ça le moteur. Ça,
les nouveaux trucs qui sortent de la prochaine foire où tout le monde va.
On pense toujours que le miracle
existe.
Les colloques, vous dites. Ouais, on court après le miracle et on est toujours déçu parce qu'en fait, on le sait bien que le miracle n'existe pas. Ça se saurait. Donc on continue, nous, à en acheter, parce que je pense que quelque part, un coin de notre cerveau aimerait tellement y croire. Donc on achète des tours chez des inventeurs, et en général, on est très déçus, ça va dans un tiroir, et on les utilise jamais.
C'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a un vrai marché du truc.
Ah ouais.
Il y a une scène.
Une offre, une demande.
On peut dire, vous parcourez un catalogue, c'est votre smartphone carrément. Vous parcourez votre smartphone avec des prix, vous donnez les prix, 24€, 39,95€.
Et ça en est très drôle. C'est une liste un peu à la surréaliste, à la Jacques Prévert.
Ouais. Mais c'est vrai, hein, vraiment, on reçoit des newsletters tout le temps. Et en même temps, c'est génial pour les marchands, parce que c'est pour la publicité, c'est toujours compliqué de trouver quelle est votre cible. Vous avez une entreprise, vous vendez un machin, donc si vous trouvez exactement les gens qui vont ouvrir votre mail et regarder. Et là, pour les magiciens, moi, je les zappe jamais. Je peux être inondé de mails, de pubs. Ah non, même, je vais les récupérer dans les spams et je les remets dans ma boîte de réception.
Avant de creuser plus avant votre carrière et vos spectacles dans la durée, j'aimerais vous poser une question. On est inculte en magie, il y a beaucoup de gens qui sont incultes. Ou alors, bon, j'ai dit Garcimore au Majax, j'ai bouffé beaucoup de télé, moi. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de magie, une sorte de mauvaise presse de la magie qui passerait pour un art un peu vulgaire? Pas populaire, mais ou alors populaire au sens de péjoratif. Une sorte de moindre art. Un art, vous avez dit le mot, c'est un art, la magie, mais un peu trop populaire.
Ah, comme la
bande dessinée. Il n'y a pas cette mauvaise image.
Alors, je ne sais pas si c'est... Ouais, là aussi, c'est compliqué, ce terme populaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on peut dire... Après, ça a quand même changé ces dernières années, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont fait bouger les choses, en termes d'esthétique, en termes de technique, en termes de dramaturgie, de personnages, tout ça. Bon, voilà. Après, c'est vrai que c'est un art qui reste quand même majoritairement assez traditionnel, je trouve, dans sa façon de s'adresser au public, dans ses esthétiques quand même, beaucoup, on en a encore un peu au strass et aux paillettes,
kitsch, presque, on pourrait dire kitsch,
ouais,
parfois.
C'est assez kitsch, assez lié à l'humour, au fait de
la,
vouloir
la légèreté aussi.
Oui. La légèreté, ouais, le fait que ça ne prête pas à conséquences, que c'est un petit jeu sympathique, voilà, qu'on fait ça sur un petit coin de table, dans une petite salle de resto, on amuse les gens avec, enfin, une espèce de chose un peu dépréciateur.
Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Oui, je trouve que ça reste. Après, quand les magiciens maintenant disent, moi, je vais aller dans un théâtre et les gens vont venir me voir, ça les oblige du coup à penser à un spectacle en entier avec une dramaturgie, une esthétique. On fait pas la même chose quand on a les gens pendant une heure avec nous ou une heure et quart que si on les a pendant cinq minutes pour faire un
tour. Clair.
On n'écrit pas les choses pareilles.
On ne voit pas passer le temps. Le spectacle était terminé. Je me suis dit, ça aurait pu durer deux, trois fois plus longtemps tellement on était captivés. Il s'est passé plein de choses en une heure et quart peut-être. Et en fait, vous avez dit, un peu répondu à ma question, en fait, vous faites partie d'un courant. On a parlé d'un nouveau cirque et à mon avis, vous êtes quand même un des grands représentants actuels de la nouvelle magie. On pourrait dire qu'il y a une nouvelle magie plus attachée à des procédés théâtraux d'où vous venez aussi, puisque vous êtes aussi comédien et vous avez...
Ouais, l'idée, ça serait de dire, un petit peu comme le cirque a pu le faire, il y a 20, 25 ans, de
ou
dire
alors,
bon.
Le hip-hop, c'est le
hip-hop,
le terme employé dans l'article du Monde que j'évoquais, mais ce n'est pas vous qui en parlez, je crois, c'est un de vos confrères, on le questionne, ou alors si, est-ce vous-même qui évoquez l'arrivée du hip-hop dans les années 90, c'est ça, sur les scènes dans les intérieurs, en fait, enfin, du moins, ça quitte l'extérieur.
Ouais, tout à fait, et puis, du coup, avec des spectacles constitués, où, en fait, on renie pas la question de la performance, parce que c'est quand même des arts performatifs, la magie.
Essentiel.
Performe, mais c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que cette performance, cette efficacité de l'effet, elle est mise, pas que mise au service, mais elle est liée à un propos plus vaste qui lui donne du sens dans un spectacle, quoi, dans une performance globale.
Le Magic Whip est-il temps à 14h22 comme ça, juste avant de diffuser, il faudra qu'on Frankie Goes to Hollywood, je crois qu'on sera obligé de mettre ça dans quelques instants, puisque le spectacle commence. Magic Whip,
allez.
Qu'est-ce que c'est à la Villette? C'est terminé, il y a une première édition, c'est en fait dans cet espace, j'ai mis la vidéo sur le blog.
C'est un lieu sur le parc de la Villette à Paris qui est très grand, c'est un des plus grands parcs d'Europe. Et il y a plein d'espaces différents. Et il y a un lieu assez au nord qui s'appelle le WIP. C'est l'abréviation WIP de Work in Progress. On peut dire labo en cours, enfin le travail en cours, quoi. Chantier en cours. Et c'est un lieu dans lequel les équipes de la Villette font plutôt des résidences, du hip-hop d'ailleurs, pas mal. Et puis, moi, je leur ai proposé de faire une sorte de maison de la magie, une partie de l'année. Donc, entre novembre et mars, il y a des magiciens qui viennent répéter des spectacles. On y enseigne la magie à des publics qui ont envie de se familiariser avec cet art. Et puis, on organise aussi des temps de programmation, des temps forts. On peut ramasser sur des week-ends où là, bah, j'essaie de montrer ce qui, moi, m'intéresse un peu, la diversité qu'il peut y avoir. Alors, ça peut aller de faire venir cette année un merveilleux magicien qui est Cartoman, canadien qui s'appelle Maddy Gilbert, qui est né, il n'a pas de main. Il est né sans main, il n'a pas de pied non plus, mais ça lui sert moins pour faire de la magie. Mais il se trouve que sans ses mains, il s'est mis à faire de la magie. Donc il a des... Oui, il n'a pas de doigts, il n'a pas de main. Et c'est un très grand manipulateur de cartes. Génial. Et ce mec, il a réinventé absolument toute sa pratique. Il a réinventé toute la cartomagie qui existe. Donc c'est fascinant de le voir travailler parce que c'est très virtuose. Et en même temps, il y a une chose humaine et un rapport à l'utopie, au fond même de la magie. C'est quand même de l'utopie, la magie, je trouve, qu'à cette période commémorative de 68. C'est pas de dire où est l'utopie aujourd'hui. Sur la question de la rêverie.
Ça, c'est intéressant. Dans un monde hyper réaliste, toujours cet article, ou même je crois que c'était carrément un dossier dans Le Monde en février dernier, c'était à l'occasion de la fin de cette période de la Villette.
La première saison,
Là je crois que c'était vos propos à vous, dans ce monde, comment dire, hyper matérialiste, ou le quotidien qui peut être assez exigeant avec tout un tas de choses très pratiques, pragmatiques, la magie, voilà, c'est une sorte un refuge. Enfin, vous parlez beaucoup de l'imaginaire dans le spectacle, de l'imagination, c'est important.
Je pense que je pense qu'il y a un âge d'or là de retour de la magie. C'est certainement parce que on a besoin d'utopie et que c'est certainement pas le politique actuellement qui le prend.
Qui fait rêver.
Vous donnez carrément, vous dites la chose, une période de crise. C'est le mot que vous employez.
Oui, puis quand même les injonctions. Enfin là, on est exactement dans les années où on nous appelle à être raisonnable, à vous regarder les problèmes en face, à gérer le réel, à gérer la crise, à gérer la pénurie, à gérer le manque, enfin, à gérer, quoi, être raisonnable. Où sont les espaces d'utopie aujourd'hui? Je pense que c'est pas hasard s'il y a un retour du fait religieux, s'il y a un retour du magique, et dans le fond, ça a quand même une origine commune, tout ça. La pensée magique, le besoin de magie, le besoin de l'au-delà, d'autre chose, c'est aussi un besoin de possible, ou d'impossible, c'est un besoin d'impossible, ou d'utopie.
Dans un monde ultra-libéral techno-fasciste.
On est à Radio il faut dire les choses.
Vous avez fait un spectacle dans ce sens-là, c'était le précédent qui s'appelait Je pense, donc je clique. Je clique, donc je suis. Ouais. Ça consistait en quoi? Il y avait une dimension vraiment très politique dans ce spectacle.
Alors pendant
la captation et l'utilisation des données personnelles.
J'ai fait plusieurs spectacles où je me suis pas mal posé la question de la perception, en me disant, mais quand même, le magicien, c'est quelqu'un qui manipule la perception de son auditoire. Et donc, il y a acquis un certain savoir sur le développement du cerveau. La perception, c'est pas un truc qui nous tombe dessus comme ça, de façon innée. Ça se construit. Donc il y a des déterminismes cognitifs, ça dépend de notre société, ça dépend de tas de choses, notre éducation, notre formation, des autorités morales, de diverses autorités.
Et notre système visuel.
Notre cerveau, c'est physiologique. Il y a des tas de déterminismes cognitifs. Et par contre, je me dis que avoir ce savoir-là donne un certain pouvoir. Là, on y revient toujours sur la question du pouvoir. Je sais comment le cerveau fonctionne, je sais comment les gens perçoivent la réalité, je peux donc manipuler les perceptions de mon auditoire. Alors, on va dire que le magicien le fait dans un contexte qui est plutôt sympathique. Enfin, disons qu'il annonce sa malhonnêteté et il annonce la couleur.
Bienveillant, ludique.
Oui, il dit, vous payez, vous savez, vous payez pour venir vous faire avoir dans un endroit de représentation safe. C'est comme du spectacle, quoi. On fait semblant de... Et on paye pour voir quelque chose où on fait semblant de, mais on dit qu'on le fait. Quoi. C'est un jeu. Après, on voit bien que les outils du magicien, savoir mentir, connaître le cerveau, maîtriser la place du public, c'est beaucoup la maîtrise de la parole, aussi la maîtrise des signes, comment les gens vont interpréter un certain nombre de signes, comment on va activer leur imaginaire à partir des signes ou de la parole. comment on va créer du souvenir aussi. Ça, c'est des outils qui sont utilisés en propagande, politique,
marketing,
religieuse, marketing, à plein d'autres endroits. Mm-hmm. Donc, petit à petit, je me suis mis à faire des spectacles qui faisaient des parallèles entre la posture du magicien et des postures d'autorité morale, hein, souvent, ou d'experts dans le monde réel, qui peuvent se targuer de nommer le réel, de nommer la réalité.
Qui vive, et je clique, donc je suis 2012-2014, ouais. Dans la peau d'un magicien 2018, c'est une création, enfin c'est le dernier spectacle, c'est ça, de 2017
c'est le plus récent, c'est le plus récent, et du coup je me suis éloigné de cette veine là où j'avais vraiment envie que la magie nous parle du réel, c'est-à-dire notamment le mentalisme, hein, parce qu'en général on fait des expériences de mentalisme où on devine je sais pas quoi, la carte choisie ou les pensées des gens. Il y a toujours des gens qui viennent vous voir à la fin en disant, oh, ma grand-mère tirait les cartes, ou oh, j'ai rêvé à ma cousine machin, et je l'ai rencontré le lendemain dans la rue et tout. Les présages, les gens, les rêves prémonitoires, tout ça, les gens, ils y croient beaucoup. Moi, j'y crois pas tellement, mais bon, les séances de spiritisme et tout ça, je pense que c'est des jeux intéressants, mais c'est des jeux projectifs. Et du coup, ça me gonflait parce que la magie nous emmenait toujours ailleurs. Et je me disais, mais pourquoi il y a un tel besoin de se détourner du réel? Alors c'est la question du divertissement, la question de, aussi liée à ce monde-là.
L'appétit du paranormal proprement humain, du magique.
Ouais, de l'utopie.
Qui serait anthropologique même à la base.
Ouais, de d'autres mondes, d'autres possibles, d'échapper à notre condition,
pas
à la matérialité, à la loi de la gravitation universelle, à tous ces trucs qui nous emmerdent. Quoi.
Eh bien, je trouve que c'est un excellent teasing. Auditeur, vous souhaitez connaître la réponse à cette question, pourquoi est-ce que Thierry Collet est passé de qui vive à je clique donc je suis à dans la peau d'un magicien, bien, restez à l'écoute. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme pause musicale à 14h30 où, c'est bien, je crois qu'il faut à la fois pour vous Thierry et puis pour l'auditeur ménager un peu de répit, un peu de repos. Moi je pensais au Frankie Ghost Hollywood, le relax, mais parce que c'est comme ça que le spectacle, vous l'ouvrez, vous commencez de cette manière quand les spectateurs entrent sur scène, et que je crois que c'est Dylan qui arrive, me semble-t-il.
C'est mon assistant Dylan Foldrin, qui est ingé son et magicien aussi, et il arrive et il va planter les pics dans la boîte, et on s'est dit, on a fait une association d'idées avec le créateur son Manuel Coursin, on s'est dit c'est de la musique de boîte, et voilà,
donc on va mettre
c'est la musique de boîte quoi.
C'est ça, un numéro vraiment hyper classique de la magie, c'est la femme. Vous parlez de la place des femmes aussi d'ailleurs dans le monde de la magie.
Après on le met un peu cul par-dessus tête ce numéro, hein. on le fait un peu à l'envers, il dure un quart d'heure,
très surprenant.
Ça dure deux minutes. Fait plein de choses.
Tu es en train de relancer une question, Gérald. 14h30.
En attendant la musique, bien
faisant
sûr.
Donc, mais elle est prête. Ah, c'est aimable de ta part. Tu me ménageais un temps de préparation. Frankie Ghost Hollywood, relax, don't do it. Ne le fais pas, mais si, il faut le faire. C'est intéressant, hein, d'ailleurs. On pourrait peut-être commenter les paroles de la chanson ensuite.
Oui.
Auditeur Radio Canu, spectaculaire, nous allons donc répondre à la question, pourquoi Thierry Collet a-t-il créé ce spectacle dans la peau d'un magicien, qui est donné jusqu'à ce samedi 2 juin au Théâtre de la Croix-Rousse. C'est à 20h, 19h30 samedi, et ce soir, bord de scène, c'est-à-dire rencontre entre le public et le magicien. Frankie Ghost Hollywood, et puis voilà.
petit clin d'œil au spectacle de Thierry Collet donné jusqu'à samedi. Il apparaît un petit moment dans le détourné dans le spectacle. Donc c'était Frankie Goes to Hollywood de Relax. Notre invité magicien, on va peut-être passer à la deuxième partie d'émission.
On pourrait presque faire, voilà, nous sommes mercredi soir, il est 20h02, 20h05, il y a toujours un peu de retardataire au théâtre. Ne le soyez pas auditeur, hein, si vous prenez vos places, oui. D'ailleurs, prenez-les. Hein,
il faut y aller, c'est vraiment impressionnant. et on est encore sous le choc, en fait.
Et donc, on est à 20h05, le spectacle commence avec cette musique. Alors non, en fait, ne partez pas dans une narration du spectacle, mais en fait, Thierry Collet, question peut-être toute simple, c'est comment pourriez-vous parler de ce spectacle? Comment pourriez-vous un peu le présenter? C'est l'histoire de... Si, vous l'aviez lancé tout à l'heure. Donc, vous entendiez beaucoup de personnes vous dire au terme de spectacle précédent, oui, ma mamie, elle faisait ces tours-là aussi.
Oui, donc je me suis dit, bon, le mentalisme, ok, voilà. Mais je suis allé voir pas mal... Enfin, je vais voir aussi beaucoup de spectacles, pas de magie. Hein, et je trouve qu'il y a un style de spectacle qui se développe depuis quelques années, qui s'appelle autour de la conférence de métier. Il y a des danseurs, des chorégraphes qui ont fait ça, quelqu'un qui s'appelle Jérôme Bell, notamment, qui en a fait plusieurs.
Quand même, oui.
Et où des gens parlent de leur pratique professionnelle et à travers leur pratique, après, à travers le discours de autour de leur pratique professionnelle, évidemment, ils parlent d'eux. Ils parlent de comment ils ont appris, qu'est-ce qui leur plaît là-dedans, qu'est-ce qui leur fait peur, qu'est-ce qui les, voilà. Et, ils dessinent un portrait totalement intime mais personnel à travers leur pratique professionnelle. Et je me dis, mais les magiciens ne parlent jamais d'eux, en fait. C'est vraiment un art où on ment en permanence, où on est tout le temps un personnage et jamais une personne. Et je suis toujours, moi, plutôt attaché à des spectacles où on voit des personnes, où on voit de l'humain, où on voit de la chair, en fait, une humanité qui s'exprime, quoi. Donc je me suis dit, bah, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là, d'un magicien qui parlerait avec une certaine sincérité de son rapport à son travail, de comment il a appris, de comment il s'entraîne, de ses limites, de ses impossibilités, de qu'est-ce qui fait qu'il est tombé là-dedans. Alors moi je suis allé voir du côté des mystères familiaux, je me suis dit, tiens, je fais quand même un métier lié au mystère, alors est-ce qu'il y a des mystères dans ma famille? Donc je parle, voilà, on va pas tout raconter, non. Mais bon, j'ai un petit chose dans les mythes. Et puis il y a quand même la question aussi de la construction du masculin, qui est quand même un truc qui m'intéresse pas mal. Je me dis, mais c'est vrai, c'est un art qui réserve quand même une place curieuse aux femmes, qui les fout dans les boîtes. Les femmes sont tronçonnées, transpercées, c'est totalement phallique d'ailleurs, c'est vraiment la domination masculine qui s'exerce cruellement, de façon très violemment sexuée en plus.
Mais pour rire.
Sur des filles qui sont dénudées.
Souvent belles.
En général belles, fines, accortes, machin, ça va. Souriantes, prêtes à tous les supplices, disponibles, soumises, on va dire. C'est terrible comme métaphore. Et je suis même étonné qu'elle ne soit pas plus relevée aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a peu de jeunes filles, moi je vois peu de magiciennes, de temps en temps il y en a, hein, c'est pas pour dire qu'il n'y en a pas du tout, mais quand même il n'y en a pas beaucoup. Alors est-ce que c'est quelque chose qui va changer comme beaucoup de misogynie globale qui de toute façon va évoluer, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est particulièrement masculin là-dedans, et de quel masculin parle-t-on? Ça nous laisse. Hein.
Non, mais c'est des questions très intéressantes. Très intéressantes.
Bah ouais. Vous parlez tout de même d'une figure au cinéma qui, selon vous, va peut-être faire beaucoup pour féminiser un peu cette profession. Vous en dites deux mots de cette Hermione.
Hermione Granger. Déjà, je pense que la mode actuelle de la mode, le retour du magique, certainement lié à la mode Harry Potter, qui a quand même essaimé.
C'est vrai.
Créer de la fascination, quoi. Et puis, là, il y a une figure de magicienne, Hermione Granger, qui est jeune, jolie, intelligente, qui apprend ses leçons, qui souvent dépatouille un petit peu aussi les autres, vient un peu à leur secours. Elle ira au ministère de la magie, je crois, à la fin. Il me semble que c'est là qui est finie.
Elle épouse un des personnages, mais pas celui peut-être auquel on pense.
Voilà, oui. Comme quoi, elle déjoue aussi le chemin tout tracé. Moi, je pense qu'elle pourrait être une figure de magicienne contemporaine. Alors oui, on peut dire qu'elle est un peu sexy, tout ça, mais je trouve qu'elle n'est pas trop non plus. Enfin, elle est assez indépendante, assez autonome.
Il y aura la figure symbolique de la fée et sa baguette magique. J'y pensais à l'instant pendant qu'on parlait de ces figures sexuelles, genrées, etc. Et il y a quand même la fée, hein. On aurait pu passer d'ailleurs Jacques Demy, Baudane, ouais, la situation.
Complètement.
Vous n'avez pas de baguette magique, vous, hein.
Alors, moi, j'en ai pas, mais souvent, ouais, c'est vrai que les fées, après, les fées, elles ont des baguettes avec des espèces d'étoiles au bout. Mm-hmm. C'est assez différent des baguettes des magiciens, hein, qui sont noires,
ah,
si, avec les bouts blancs.
Si, vous en avez une, d'ailleurs, j'ai oublié.
Moi, j'en ai une. Eh oui. Je montre un tour.
Ah oui.
Et elle est totalement phallique de toute façon, cette baguette. C'est quand même un attribut masculin, comme un sceptre, comme je sais pas quoi.
La baguette du chef d'orchestre.
Complètement. Les magiciens ont besoin de réaffirmer. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de masculin là-dedans. Je sais pas à quel âge. Moi, je pense qu'il y a un blocage au moment de l'adolescence. Au moment de la psycho à deux balles.
De comptoir,
mais non,
ouais, de studio, de Radio Canu.
Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, dans la catégorie. ouais, moi je me dis qu'il y a un truc avec ça, quoi. De toute façon, il y a un truc régressif. Hein,
oui.
C'est quand même un art qui ne sert à rien. On dit qu'on fait des trucs pour de faux, on fait des tours de cartes. Enfin, c'est sympa. Souvent,
pas sérieux. Et puis, de là en vivre sérieux. En plus.
Oui,
en faire son métier.
Et puis quand même les trois quarts des magiciens, comme on disait tout à l'heure, qui sont un peu tradis, qui font ça à leurs potes comme ça dans un coin. Enfin, tout ça n'est pas sérieux, quoi.
Vous desservez votre spectacle. Moi, je ne suis pas d'accord. On passe un excellent moment. Moi, je suis sorti, j'étais enjoué. Enfin, c'est. Il est vraiment bien ficelé. Peut-être serait-il temps à présent de parler un peu d'Éric Didry, éventuellement, enfin le metteur en scène de ce spectacle. Mais il y a un vrai truc. Il est bon, ce spectacle. Et vous évoquiez donc un peu sa genèse en parlant de Jérôme Bell, notamment ce chorégraphe, puis d'autres choses encore. Donc, je sais pas. Enfin, pourriez-vous peut-être davantage, enfin continuer à développer, à parler de ce dans la peau d'un magicien qui
son écriture, sa réalisation,
ça vaut le coup.
Collaboration.
Il y a un vrai truc. Enfin, on rentre dedans, quoi. En empathie avec vous, certes, bien entendu, mais c'est vraiment.
Alors,
c'est super.
Moi, je me fais toujours aider. J'ai toujours des collaborateurs et collaboratrices parce que je pense aussi qu'une des raisons qui fait que la magie peine à se renouveler, c'est le fait que les magiciens travaillent tout seuls. La question du secret n'est certainement pas pour rien. Le fait qu'il faut pas, il faut garder les secrets, donc il faut qu'il y ait le moins de gens possible qui travaillent avec le magicien, parce que du coup, les secrets vont être éventés, vont être partagés. Et quand on règle une fois pour toutes la question du secret, en disant, oui, évidemment, oui, il y a une part de secret là-dedans, mais si on verrouille tout autour du secret, c'est un art qui se regarde le nombril, c'est un art qui se partage pas, qui s'ouvre pas aux autres collaborateurs. Moi, j'ai appris des choses en bossant avec des créateurs sons, des créateurs lumière, des metteurs en scène, des auteurs, avec d'autres interprètes. C'est parce que j'ai bossé avec des gens qui avaient d'autres compétences que moi et que j'ai du coup partagé mes secrets.
Ah, il est indiqué que vous êtes conseiller en effet magique auprès de Philippe Adrien, Yanis Kokos, chorégraphe, hein, je crois c'est ça, Benjamin Lazare, metteur en scène, puis en plus tournée très 17e, c'est ça, 16e,
ouais,
je crois.
Ouais,
donc c'est
enseignant.
Jean Lacornerie aussi, enfin c'est ça fait. Donc vous avez fréquenté d'autres personnes, oui.
C'est le fait de partager, d'ouvrir, d'être ouvert aux rencontres et aux collaborations. Je crois beaucoup à ça. Ça fait d'abord ça rend un peu humble parce que on interagit avec d'autres gens, avec d'autres artistes que moi j'admire beaucoup. Je peux me mettre au service quand je fais du conseil de leur propre création. Et puis moi je réunis des équipes quand je monte des spectacles, donc j'ai des relations de travail avec des metteurs en scène, notamment Éric Didry qui m'a accompagné sur le spectacle Dans la peau d'un magicien, qui est un metteur en scène de théâtre, qui a aussi accompagné des danseurs, qui enseigne beaucoup, et qui fait tout un travail autour du récit. C'est vraiment là-dessus qu'on s'est rejoint, c'est aussi pour ça que je suis allé le chercher, lui demander de travailler avec moi, de m'accompagner là-dessus, de m'aider. C'est parce qu'il a vraiment un protocole autour du récit, et on le voit là dans la peau, les récits sont dits au présent, c'est comme si on retraversait des événements qui se sont passés au présent, donc c'est dit au présent, mais... évidemment, on les redit aujourd'hui comme s'ils étaient au présent. Donc, ça permet d'avoir un regard dessus, les mettre un peu en perspective. C'est ce que je fais dans le spectacle. C'est comme si on en tirait. C'est pour ça qu'il fait que on n'est pas dans le nombrilisme, on n'est pas dans je raconte ma vie, mais on met sa vie, on essaye de mettre sa vie en écho avec des problématiques plus larges, avec des résonances plus multiples, plus vastes, et en essayant que un public puisse se projeter et attraper des choses au passage. Quoi.
En perspective kaléidoscopique et jeu de miroir.
Exactement.
Comme dans ce fameux film classique avec les miroirs brisés, film noir et blanc, chef d'œuvre du film classique. J'ai oublié.
Kubrick, non, c'est ça?
Non, la scène des miroirs. Ça me reviendra. La dame de Shanghai, dedans, je crois. Il y a Wells. Bref.
Qui était magicien. Wells, il adorait la magie.
Eh oui.
Il a fait des spectacles de magie, même, Wells.
radiophoniquement aussi, hein, je crois. Je sais plus.
Ah bah oui, alors ça pour la manipulation, ça il était fort.
Ouais, c'est véridique.
Nos émissions de radio. On revient à des thèmes, ça tourne toujours autour.
C'était la guerre des mondes.
C'est ça.
Et les gens appelaient.
Et tout était paniqué. Tout le monde a cru à l'époque.
Terrorisé, ouais.
Vrai canular, quoi. Sauf que vous, c'est pas du canular. Il y a une dimension mystérieuse. Vous laissez une part de mystère percée. Vous préservez juste ce qu'il faut de mystère pour qu'on soit encore séduit et fasciné par ce que vous faites. Et ce que je disais tout à l'heure en antenne, vous avez parlé de nombrilisme à l'instant. Il n'y a pas de narcissisme dans ce spectacle, c'est totalement paradoxal. Mais c'est une de ses qualités, j'ai trouvé.
Ah, mais il y en a tellement.
Tellement y en avoir dans un récit autobiographique de vos expériences, de votre parcours personnel à l'âge mûr où vous êtes arrivé. Ouais, c'est un peu ça, un spectacle bilan.
Moi j'ai toujours peur que ça soit le dernier, donc je veux pas être, surtout pas dire que c'est un bilan. Déjà j'ai horreur de dire c'est mon dernier spectacle.
Ah oui, c'est le plus récent, vous avez dit.
Je dis c'est plus récent. Je reprends toujours en disant c'est plus récent.
Très bien.
Le dernier.
Il y aura un prochain. Oui,
parce que c'est une vraie peur du créateur de se dire la page blanche, ça reste toujours une vraie peur. Vous voyez, je serre d'ailleurs les bras d'une façon totalement absolument paniquée. C'est quoi la page blanche? Oh là là.
Qu'on paye ce goudo et Charles Aznavour ont fait des tournées pendant 15 ans, d'adieu.
C'est bien, il y a une belle honnêteté, puisque d'ailleurs, vous donnez deux trucs. Vous donnez deux trucs. Il y a le cintre que vous révélez, et puis le faux dépôt. Et c'est quand même bon, ça.
C'est
un spectacle de magie, certes, mais il y a également, c'est ce que vous indiquez à l'instant, une conférence sur votre métier. Et donc,
c'est pédagogique.
Il y a quoi? On peut les compter. Il y a peut-être 8 ou 9 tours. Et donc, sur les 8 ou 9, il y en a deux, quoique la pauvre spectatrice, le coup du cintre, elle ne saura pas, à moins qu'elle soit venue accompagner et qu'on lui ait révélé la chose, mais c'est bon ça de faire entrer le public. D'ailleurs, manipulation, c'est ça, comme ça vous mettez le public dans votre poche, c'est en révélant les trucs, c'est en les montrant, en les expliquant.
L'histoire du cintre, elle est intéressante parce que l'explication est presque plus passionnante que le tour lui-même. Enfin,
j'ai bien aimé le vivre, moi j'aimerais bien me dire, mais comment il a fait
voilà. Et en même temps, on peut se dire qu'elle, la spectatrice, la seule qui est dans l'illusion, est peut-être à la plus belle place, et la place est plus passionnante.
Ah, moi, je suis jaloux,
Mais après, pour le public, je trouve que ça permet de faire travailler ce qu'on appelle le neurone miroir. C'est-à-dire, en voyant ce qui se passe, vous pouvez vous mettre à sa place. On peut on peut imaginer ce qu'elle, ça active, ce qu'elle ressent, quoi. Le fait de voir est comme, ou d'imaginer est comme si on ressentait. On peut en même temps voir l'explication et puis se dire, tiens, et c'est quoi l'illusion qu'elle ressent? On a les deux, quoi.
Ah non, c'est très fort. Dans la peau d'un magicien, donc oui, on est un peu dans votre peau, puisque vous évoquez donc ces différents souvenirs de votre vie, souvenirs de petite enfance. Il y en a pas à 7 ans, mais un peu plus tard, et ensuite souvenirs d'études, une vingtaine d'années, c'est ça? Votre tour qui vous relance qui vous remet le pied à l'étrier avec cette idée, je serai acteur, c'est ça? C'est au moment où vous dites que vous allez, vous n'avouez pas encore tout à fait tout de même la magie, puisque vous dites que ça date quoi, seulement de 2-3 ans, le fait d'assumer je suis un magicien. Mais à cette époque, vous l'aviez un peu relégué.
Totalement, ouais. Moi, j'ai plutôt fonctionné par opposition, en me disant, au moment où je découvre le théâtre, qui est une chose qui me marque beaucoup. Et je sais pas à l'époque, je savais pas du tout comment lier la magie à la théâtralité. Donc j'ai fonctionné un peu par opposition, quand j'étais chez les magiciens à me sentir plutôt acteur, et quand j'étais chez les acteurs à me sentir plutôt magicien. Pas très légitime, syndrome de l'imposteur, exactement, de l'usurpation. J'ai mis du temps et cette histoire que je raconte,
elle est fabuleuse.
Avec un groupe d'acteurs, avec
ce travail. Pluie d'été.
C'est la pluie d'été, c'est un texte de Marguerite Duras, monté par un grand metteur en scène qui s'appelle Éric Vigné, et qu'on répétait. Et vraiment, ça a été une soirée qui m'a autorisé, où des gens que moi je pouvais peut-être un peu surestimer, ou en tout cas qui étaient pour moi des autorités morales à ce moment-là, m'ont dit, ce que tu fais, c'est du théâtre, c'est de l'art. Enfin, voilà. Et donc, ça m'a, je sais pas quoi, légitimé dans le fait ça a été une espèce de déclic qui m'a permis de lier ça après.
Et cette narration est géniale, le moment où quoi, le tour a raté.
C'est une résolution.
C'est une belle histoire. C'est une belle histoire dans toute l'histoire de ce spectacle.
Puis il y a un truc autour de la magie du théâtre, c'est le fait de raconter un tour peut être aussi puissant que le faire.
En fait.
L'imagination, le fait qu'on imagine ce tour avec la boîte, la carte, voilà. Et ben voilà, la magie de raconter.
Le conte. Le récit.
C'est
des vraies
narrations,
c'est aussi magique.
De représentations qui sont intéressantes, justement aussi. En termes vraiment, même théoriques, sur la théorie du théâtre ou les degrés.
On l'évoquait un instant, plus d'été, c'est ça, Gérald?
Plus d'été.
Tu nous fais.
Alors, la magie de la radio, c'est d'écouter la voix de Jeanne Moreau qui, me semble, a disparu.
Ouais, ouais.
Ça, c'est bien, la magie du son.
L'été dernier, l'été 2017.
Voilà. Donc, un petit hommage quand même. India Song.
C'est une lecture, c'est ça?
Non, non, c'est chanté.
Eh bien, écoutons Jeanne Moreau et puis ensuite, il nous restera une petite dizaine de minutes pour terminer sur le prochain spectacle. Voilà, projetons-nous éventuellement.
Ah, la page blanche qu'elle a.
ou alors, restons sur dans la peau d'un magicien. Jeanne Moreau et nous continuerons.
Jeanne Moreau nous chantait Carlos D'Alessio, le extrait du film India Song, donc le pianiste et texte de Marguerite Duras peut-être d'ailleurs, donc chanté par Jeanne Moreau avec Carole Trow à la direction d'orchestre.
Et tout ça parce
que... Une compilation Polygram 1988, des tubes de Jeanne Moreau.
Et tout ça parce que Thierry Collet, notre invité, évoque le texte Plus d'été. C'est un moment charnière
un
dans
moment
le spectacle,
de théâtre.
Dans votre vie aussi, sur le...
Parmi tant d'autres.
Le passage de...
Le lien entre la magie, la théâtralité. Tout d'un coup, les gens de théâtre disent « Ce que tu fais, c'est du théâtre », alors que je ne pensais pas du tout.
Auditeurs, nous parlons du spectacle « Dans la peau d'un magicien ». Celle de la peau de Thierry Collet, spectacle qui a commencé hier. Il reste encore plusieurs représentations. Ce soir, mercredi 30, demain, vendredi, samedi. Attention, c'est 20h en semaine, 19h30 samedi. Et en plus, ce soir, rencontre avec le public, les fameux bords de scène au théâtre de la Croix-Rousse. Moment dans lequel, on le dit tout de suite à auditeurs, si vous restez ce soir, n'attendez pas de Thierry qu'il révèle ses trucs. En revanche, il répondra certainement à beaucoup de questions, comme éventuellement peut-être celle-ci. Alors pas tant le prochain spectacle, mais je ne sais pas, le prochain Magic Whip, c'est prévu, donc c'est ça, c'est peut-être une première édition
ouais,
qui vient de s'achever.
Ce lieu sur le parc de la Villette, hein, qui est dédié une partie de la saison à la prestidigitation, ça repart la saison prochaine, entre novembre et mars, voilà, avec on fait venir un spectacle de magie chilien. C'est des gens qui font de la magie pour les aveugles, qui font de la magie dans le noir. Ça serait presque radiophonique.
Hein, ah oui,
magie,
complètement.
Ouais, ouais. Et donc, il met tout le monde à égalité parce que c'est une association de non-voyants qui sont venus le voir en Chili en disant, ça s'appelle Juan Esteban Varela, en disant, monsieur Varela, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour nous? On est une association de non-voyants, est-ce que vous pourriez faire de la magie? Donc, il était un peu troublé parce que quand même, la magie, c'est plutôt un art visuel. Oui. Donc, il a cogité, il s'est dit, mais en fait, c'est dommage de faire de la magie que pour les non-voyants. Ça serait intéressant de mettre tout le monde à égalité, justement, d'enlever la question de la discrimination, de la différence, et ça. Donc, ils mettent tout le monde dans le noir. Et les spectateurs, enfin, les participants à l'expérience ont une petite boîte sur leurs genoux. Et lui, un rôle un peu de conteur. Donc il parle, il raconte des histoires et puis il demande aux gens de sortir des objets. Donc c'est des cartes avec des trous de formes différentes. Donc on manipule soi-même un peu les objets et on se fait des tours à soi-même. Et on se rend compte que collectivement, les gens se font des tours. Et je le fais venir, donc on le traduit en français, on le diffuse donc au Magic Whip la saison prochaine, en janvier. Et il y a un tour qui fait à la fin, et je pense que je le fais venir parce que je voudrais savoir comment ça marche. Parce que il dit, voilà, dans votre grande boîte, il y a une petite boîte, vous prenez la petite boîte, et il y a aussi une pièce de monnaie. Donc tu prends, tu trouves, il y a un jeton, enfin une médaille et tout. Donc tu mets dans la petite boîte, tu fermes le couvert, tu secoues, donc tu entends tout le monde, ça fait gling, 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 j'ai tout le monde. Il dit, voilà, stop, arrêtez. Il dit, je vais claquer dans les doigts, et la pièce va disparaître. Il y a un grand silence, il claque dans les doigts, et là on secoue la boîte, et il n'y a plus un bruit. Et moi, j'ai soulevé le couvercle, j'ai gratté. Je me suis dit, mais ah merde, elle est passée où, cette pièce? Je ne savais pas du tout. J'ai même hésité à voler la boîte. Oh, et après, mon sens moral m'a rattrapé. Je me suis dit, oh, il y a des caméras infrarouges, ils doivent vérifier qu'on ne vole pas les boîtes.
Elle avait un double fond, cette boîte.
Mais c'est possible, j'en sais rien.
Un truc comme ça, quoi.
Je suis très content des années après d'avoir la délégation de production de ce spectacle. Et comme ça, je vais avoir les boîtes dans la main et je vais pouvoir comprendre comment ça marche.
On ne l'a pas évoqué, c'est par le biais du Falen, c'est ça? C'est l'adresse de votre
site? C'est ma compagnie, ouais. C'est la compagnie que je dirige, qui s'appelle Le Falen.
.com.fr, le site, je ne sais plus.
Alors, il y a lefalen.com ou thierrycollet.fr, comme quoi les gens sont totalement narcissiques quand même. Donc, thierrycollet.fr.
Vous êtes vous, enfin, quand même.
Et là, vous avez les dates de tournée, les tout les activités, les trucs qu'on fait. Et puis, il y a un onglet sur le site qui s'appelle Magic Whip, qui est donc ce lieu.
La Villette,
et qui déroule un peu les dates, les activités, les trucs, les matchs, tout ce qui se passe.
J'ai tout mis, Gérald, sur le blog, absolument tout.
Le teaser aussi du théâtre de la Croix-Rousse.
J'ai tout mis, j'ai mis des photos, j'ai cité Baptiste Le Quignou.
Génial.
Il me semble, il faut. Souvent, je mets des photos, puis je ne mets pas de DR ou je ne sais quoi. Non, il faut. Non, voilà, c'est quand même la propriété intellectuelle, qu'elle soit celle du magicien ou bien du photographe. J'ai tout mis, j'ai même mis, peut-être, Gérald, là, il nous reste encore 2 minutes, j'ai commencé un compte-rendu sur l'opéra, ça pourrait peut-être vous intéresser, Germania de Alexander Askatov, un opéra totalement barré, qui est à l'Opéra de Lyon, un truc vraiment fou. Germania, d'ailleurs, il y a le terme de mania dedans, de folie qui apparaît. Staline et Hitler sont sur scène. Hitler, d'ailleurs, a des bottes aux pieds, puis des bottes également aux bras, et il chante en voix de ténor. Staline, c'est plutôt baryton. C'est un truc délirant.
C'est une utopie qu'on appelle une dystopie. Germania était le délire projeté par le nazisme pour faire de Berlin la capitale du monde.
John Fulgiems, le metteur en scène, a ces termes assez intéressants. Donc, bien entendu, ça parle d'une période historique passée qui n'est pas si loin que ça. Mais lui, il évoque le théâtre lyrique, donne une seule réponse à cette question, la question qui est, est-ce qu'on a le droit de tout montrer? Lui dit, le théâtre lyrique s'intéresse à la vérité émotionnelle et non à l'élément documentaire. L'opéra conduit au cœur de l'émotion des histoires qu'il raconte. Il permet ainsi de rendre compte d'une pièce historique dont nous ne comprenons plus facilement, plus forcément, le contexte et les détails. C'est intéressant cette idée d'émotion. Je pense qu'il y a des émotions également dans votre spectacle, Thierry Collet. Je ne cherche pas à faire un lien entre les deux, mais enfin voilà, il me semble que cherche un spectateur un spectacle? C'est ressentir quelque chose. Et donc à l'Opéra de Lyon, c'est encore ce soir ainsi que lundi prochain. Donc vous pouvez à la fois aller voir Thierry Collet, auditeur. Vous pouvez également aller à l'Opéra de Lyon pour voir musicalement. C'est peut-être moins choquant que ça peut être sur scène. Il y a meurtres, viols, il y a absolument tout sur scène. Staline, Hitler, il y a également un serial killer des années 90 en Allemagne. Donc enfin, ça part vraiment dans tous les sens. Germania Alexander Askatov, c'est intéressant. Il y a également demain, nous recevons Vincent Balz, il y a cela un mois, Fiddler's Tale, jeudi 31 mai, c'est à la salle Molière, une œuvre de Strasbourg. Stravinsky, L'histoire du soldat, et puis une œuvre de Wynton Marsalis.
La version, voilà, Phil de Marsalis. Marsalis.
Voilà, c'est ça. Il y a également des concerts à l'auditorium, et bon, il y a Radouloupou qui vient jouer le concerto numéro 3 de Beethoven.
Et pour ceux qui aiment le jazz, dont on faisait la chronique
Michel
la semaine
Fernandez,
dernière, rejoue le 15 juin au Club Jazz de Lyon.
Beaucoup de choses à faire et à voir.
On en parlera la semaine prochaine.
En priorité, dans la peau d'un magicien. Réservez vos places. Allez ce soir voir le bord de scène. Et puis peut-être attraper Thierry Collet dans la rue. Là, je crois qu'il va remonter les pentes pour peut-être se rendre au théâtre.
Ça vaut le coup. Ouais.
Ou alors rencontrez-le dans les rues.
Que l'on soit amateur, ignare en magie.
Le blues des
Canus. Ça vous plaira forcément.
Va commencer dans quelques secondes. On n'arrête pas le prog à 17h. Canu Info à 19h. Et entre-temps, à 18h, bien entendu, la méga combi. Et puis voilà. Quoi qu'il en soit, restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Et puis c'est très bien. Merci beaucoup, Thierry Collet.
Merci
on se tiendra au courant en allant sur le Falen.
Merci à vous. C'est un très agréable moment.
Si vous repassez à Lyon, on vous remettra la main dessus. Non pas pour connaître des trucs, mais pour vous entendre parler. C'était vraiment très agréable. Ciao tout le monde. Bonne journée. Et puis
à la semaine prochaine.
J'ai même pas mis le générique de fin. Allez. Salut tout le monde. Bye bye.